dans différents récipients qu'on va appeler des herlaines. Donc là, en fait, on ensemence les herlaines sous le PSM ici. Et ensuite, on va les incuber là à différentes températures en fonction de la bactérie. Donc là, on est à 37, puis on a les Escherichia coli, peut-être que vous connaissez. On retrouve dans l'intestin, notre intestin. Après, sinon, on a des paillasses classiques avec différents matériels. Ça, on appelle une centrifugeuse pour pouvoir, ce qu'on appelle, culotter les bactéries pour pouvoir travailler dessus après. Enlever le milieu de culture et travailler que sur les bactéries.
Il y a des choses qui ressemblent à des frigos, d'autres à des fours. S'il y a des choses, comme on se sert à la cantine, qui ressemblent à des réfectoires, aussi à nos tables de physique-chimie avec des incubateurs. Voilà.
Et voilà, ça c'est vraiment une salle typique de microbiologie avec un PSM où j'ai retrouvé ces postes à sécurité microbiologique et aussi donc différents incubateurs en fonction, enfin on va régler la température, l'agitation, parce qu'il y a des bactéries qui ont besoin d'oxygène, donc c'est pour ça qu'on met de l'agitation. D'autres bactéries au contraire pour lesquelles l'oxygène est toxique. Et on va régler aussi la température, parce qu'il y a des bactéries qui vont plutôt croître à 37 degrés, d'autres à 30, à 25. Voilà, ça dépend de leur environnement. Okay. Vous voulez qu'on continue? Après, il y a certaines... Alors, cette salle-là, c'est pareil, c'est... je ne sais pas si c'est vraiment utile. C'est aussi une salle... spécialisé aussi pour la microbiologie, donc là PSM aussi. Et ce qu'il n'y a pas dans la pièce, c'est qu'en fait on a des appareils ici qui nous permettent de suivre la croissance, la croissance des bactéries en fonction du temps, donc faire des cinétiques de croissance, savoir si elles se multiplient rapidement ou pas, en fonction du milieu de culture aussi. Et puis de la température, toujours la température de croissance.
Oui, il y a beaucoup d'ordinateurs.
Différents appareils qu'on utilise plus pour la croissance des bactéries. Ils suivent au cours du temps.
Il y a beaucoup d'ordinateurs avec une grosse fraiseuse numérique et il y a encore un PSM qui ressemble à un réfectoire de cantine.
Ça va, vous comprenez là?
Oui. Et encore, c'est encore une salle climatisée.
Voilà. Vous diriez qu'il y avait des trucs,
oui, des. Donc là, vous avez, par rapport aux deux autres pièces, en plus, vous avez une hotte chimique, donc une sorbonne. Donc sous cette sorbonne, on va pouvoir manipuler différents produits chimiques. Donc surtout pour protéger le manipulateur. Okay. Alors, on va commencer par celle-là. Celle-là, je vais vous expliquer, mais je ne vais pas vous la montrer puisqu'il y a un produit cancérigène dedans.
Donc, je vais pas vous montrer.
Alors là, c'est plus une pièce pour étudier justement l'ADN que vous n'avez pas encore vu. Voilà, le matériel génétique de nos cellules. Mais après, c'est vrai que si vous n'avez pas appris ça en cours, ça va être un peu compliqué de vous expliquer. Il y a aussi là, donc cet appareil-là, on l'appelle aussi un PSM. Alors là, c'est plus pour protéger les échantillons. L'ADN, on manipule l'ADN sous cet appareil-là et pour éviter d'être contaminé par d'autres molécules d'ADN aussi, on utilise cet appareil-là, voilà, pour être un peu plus dans les conditions propres, stériles. Là, c'est des appareils d'électrophorèse, mais c'est pareil, c'est plus compliqué à vous expliquer. C'est pour séparer des molécules d'ADN. Molécules d'ADN, ça vous dit rien, l'ADN?
Non.
Non. Les chromosomes? Non.
Voilà.
Ah oui, oui. Bon, bah, vous avez encore plein de choses à apprendre. Donc là, pareil, un labo de microbiologie avec un PSM aussi ici, incubateur. Donc, ici, et puis les paillasses sur lesquelles on travaille, moi c'est la mienne, elle est là. Voilà, ça c'est ma paillasse ici. On a chacun une paillasse pour travailler avec nos différentes approches de produits ici. On a chacun un placard voilà, avec nos milieux de culture, les produits chimiques qu'on utilise, et puis les différents tubes.
Vos élèves, c'est majoritairement des hommes ou des femmes ?
Il y a un mix des deux. Voilà, autant des hommes que des femmes. C'est vrai qu'en biologie, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu plus de femmes par rapport à.
Et vos collègues, c'est pareil ?
Si on regarde ici, c'est vrai que je crois que parmi les enseignants-chercheurs, il y a plus de femmes. Que d'hommes.
Ok.
Ouais. Ouais.
Ouais. C'est long. Vertigineux.
Ouais, ouais. Ça paraît long.
Ouais, c'est long. Mais... Dedans, ça va être... mais oui, c'est ça quand on est dedans. Hein.
Question, vous avez posé question. Vos questions,
questions oui. Oui. Oui.
C'est bon pour vous, vous êtes sûr?
Oui. Puisque je suis beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là?
Ouais, je pense. Après, il ne faut pas qu'on aille trop loin, parce qu'en plus, vous allez commencer à parler de votre parcours, et ce sera plutôt les questions de
oui.
Vendredi.
D'accord.
D'accord.
Lilou, commence à stresser.
Non, c'est juste pour savoir. D'accord.
Ah oui. Oui.
Ouais.
D'accord. Vous ne me posez pas des questions trop difficiles, hein.
Non, c'est qu'il est trois qui vendredi, de vendredi.
C'est pas
nous. Ah, d'accord.
Est-ce que...
C'était trop génial d'avoir visité le laboratoire Luthé. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir notre invitée spéciale à nos côtés, Corinne Barbet, biologiste et enseignante à l'UUT. Je suis Julien, Tom et Lilou, et nous allons poser des questions à Corinne Barbet. Bonjour Corinne.
Bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Très bien. Très contente d'être ici.
Donc on va vous poser quelques questions sur vos orientations et sur votre filière que vous avez choisie pour faire biologiste.
D'accord, merci.
Donc, quelle filière avez-vous choisi lors de votre orientation ?
Ah, alors, moi, j'ai plus un parcours biologie. Donc, j'ai commencé par une licence de biologie, sciences de la vie et de la terre. Donc, un bac plus 3. Et puis, je me suis ensuite orientée plus vers la biochimie, biologie moléculaire, donc en première année de master. Au cours de ce master, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage vraiment très intéressant au CHU de Caen, donc sur la résistance des bactéries aux antibiotiques. Et c'est vraiment là que j'ai eu le déclic et je me suis dit, j'aimerais bien continuer justement dans le domaine des bactéries. Donc j'ai continué à l'université de Rennes, en fait, en master 2, donc j'ai changé de ville. Et j'ai fait un stage donc à l'INRA de Rennes, alors toujours dans le domaine des bactéries. L'objectif c'était d'étudier un peu la diversité génomique des bactéries isolées de différents animaux pour essayer de voir un peu comment les bactéries sont capables de s'installer sur tel ou tel animal. Alors ces bactéries c'était les staphylocoques dorés. Qui provoquent malheureusement des maladies chez l'homme, mais aussi chez les animaux. Et ce stage m'a vraiment plu en microbiologie, et j'ai voulu poursuivre donc vers un doctorat. Donc j'ai cherché des offres de thèse donc pour pouvoir faire un doctorat ensuite, et j'ai trouvé donc une offre de thèse, enfin j'ai été recrutée à l'université de Caen donc pour travailler sur un autre sujet de recherche mais toujours dans les bactéries, sur des bactéries en fait qui provoquent des pneumonies chez le poulain, et l'objectif donc c'était de caractériser les protéines produites par ces bactéries là pour pouvoir développer des vaccins pour lutter contre justement ces bactéries qui provoquent les pneumonies. Et ensuite, j'ai soutenu ma thèse, et puis je suis partie, j'ai répondu à une offre plutôt à l'IUT d'Évreux, donc pour un stage postdoctoral. Et puis après, donc j'ai continué, enfin j'ai, alors je, je, je il a duré quelques années, mon stage postdoctoral. Et puis après, j'ai passé les concours, en fait, pour être maître de conférence, donc à l'IUT d'Évreux. Donc voilà, j'ai plus un parcours microbiologie, vraiment orienté bactéries.
Ok, merci Corinne. À quelle université êtes-vous allée ?
Alors, je suis allée à l'université. J'ai commencé à l'université de Caen. Parce que c'était pas très loin de chez mes parents. Je suis originaire en fait de Cherbourg, dans la Manche. Et puis après, pour me spécialiser un peu plus dans la microbiologie, j'ai décidé de rejoindre l'université de Rennes. Mais finalement, je suis quand même revenue à l'université de Caen donc pour un travail de thèse. Et puis là, maintenant, je suis recrutée. Alors, en fait, les enseignants-chercheurs sont recrutés à l'université de Rouen, mais on est détaché en fait, à l'IUT d'Évreux.
D'accord. Est-ce que le fait d'être une femme a dérangé votre parcours ?
Alors, dans le domaine de la biologie, pas vraiment. En fait, j'ai pu vraiment avoir un parcours classique en étant une femme, par rapport peut-être à d'autres... D'autres filières, je sais que c'est plus difficile dans certains domaines, comme la physique ou les maths. Mais en biologie, c'est vrai qu'on a la chance de pas rencontrer ces problèmes d'inégalité homme-femme.
Du coup, pour revenir un peu à ce que vous avez dit, du coup, quelle était la proportion de femmes et d'hommes lors de vos études et constatez-vous la même chose de nos jours ?
Proportion d'hommes et de femmes dans mon parcours, je dirais que c'était à peu près 50-50. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant, c'est peut-être plus... Il y a peut-être plus de femmes en biologie que d'hommes. Alors, si je prends l'exemple de où je travaille, là, à l'IUT, dans notre laboratoire, par exemple, il y a plus de femmes que d'hommes enseignantes, chercheuses.
Ok. Avez-vous déjà eu envie d'abandonner vos études à cause des stéréotypes ou du travail trop compliqué dans cette orientation ?
Non, parce que je pense que j'avais vraiment trouvé ma voie. C'est une passion, en fait, la recherche, c'est vraiment une passion. J'ai eu ce déclic là pendant mon premier stage là au CHU de Caen. C'est là que je me suis dit, je vais essayer, parce qu'après, c'est vrai que c'est des études qui sont aussi difficiles, un parcours qui est long. Il y a beaucoup de choses à apprendre, donc c'est un parcours qui est difficile. Mais j'ai réussi, je pense, avoir atteint mon objectif. Et je n'ai pas été forcément perturbée par les stéréotypes.
Pouvez-vous nous citer quelques femmes héroïnes dans les sciences qui vous ont inspirée ?
Oh là là là. Alors, je suis désolée, je vais dire la même femme que je pense que tout le monde a cité, Marie Curie. J'ai pas révisé. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, on connaît beaucoup d'hommes du monde scientifique, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qu'on ne met peut-être pas assez à l'honneur.
Super. Quel poste occupez-vous ?
Alors, je suis enseignante et je travaille aussi en laboratoire, donc enseignante-chercheuse en laboratoire. Donc, c'est un double métier, en fait. On enseigne, j'enseigne à l'Université de Rouen et puis aussi à l'UIT d'Évreux dans différentes formations. Et puis, je travaille aussi en laboratoire. Donc on a des projets de recherche à monter et puis des expériences à réaliser pour valider ou infirmer nos hypothèses scientifiques.
Pourquoi avez-vous choisi votre métier ?
Alors, j'étais pas forcément partie pour faire ce métier-là au départ. C'est vraiment au cours des études que je me suis plus spécialisée dans la bactériologie. Et c'est vraiment pas... Pourquoi je l'ai choisi ? Parce que c'est un métier qui permet d'apprendre énormément de choses. En fait, on acquiert de nouvelles connaissances tous les jours. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce métier, c'est le contact avec les étudiants. Le fait de pouvoir partager notre expérience, Et puis de transmettre aussi nos connaissances donc à des plus jeunes, ça c'est vrai que c'est super.
Avez-vous déjà rencontré des problèmes à votre poste ?
Alors des problèmes, alors c'est peut-être le fait qu'on ait un double métier, enseignant et puis chercheuse. En fait, il faut savoir concilier les deux. C'est de l'organisation, c'est pas forcément toujours facile de passer de l'un à l'autre. Le matin, on va faire des enseignements. L'après-midi, il faut se remettre à la paillasse pour faire des expériences. Donc voilà, faut que le cerveau suive aussi. C'est vrai que c'est pas forcément facile de passer de l'un à l'autre, vice-versa.
Ok. Avez-vous déjà souffert des stéréotypes par rapport à votre métier, par exemple, est-ce que vous êtes pas capable ou des trucs dans le genre ?
Alors non, c'est vrai que j'avoue que j'ai heureusement pour moi, peut-être par rapport à d'autres, c'est sûr, d'autres personnes, j'ai pas été confrontée à ce type de problème au niveau des inégalités hommes et femmes, même au niveau du salaire, c'est vrai que nous on a la fonction publique, c'est des grilles qui sont définies, donc il n'y a pas, on ne rencontre pas ce type de problème. Et même par rapport aux stéréotypes, c'est vrai que, par exemple, au labo, le directeur du labo, c'est une directrice de labo. Et ce n'est pas forcément toujours le cas, notamment dans les d'autres filières, comme en physique et en maths. A priori, c'est plus compliqué de gravir les échelons.
Ok. Être une femme, est-il dérangeant chaque jour ? Et est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ?
Oh là là, non. Oh non, bien au contraire. Oh non, pas du tout dérangeant. Non, on peut s'épanouir en tant que femme dans son métier ou en tant que maman aussi. Non, c'est pas du tout dérangeant.
Merci Corinne. Nous vous remercions. Nous remercions Corinne Barbet, chercheuse et enseignante à l'IUT d'Évreux. Nous laissons place à l'interview de nos camarades.
Aujourd'hui, nous recevons Marine de l'association Nous Toutes.
Bonjour Marine.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Très bien. Quand votre association a été créée ?
Alors, Nous Toutes, c'est un collectif féministe qui a été mis en place au National en 2018.
Bonjour. Pourquoi l'avoir créé ?
Alors, au début, il a été créé au niveau du national pour parler notamment des violences sexistes et sexuelles que vivent principalement les communautés des femmes et des enfants. Et puis aussi, du coup, pour lutter contre les discriminations en général. Et suite à ça, quelques années plus tard, des collectifs locaux se sont mis en place. Et donc, par exemple, moi, je fais partie du local de l'Eure, donc de Nous Toutes 27.
Combien de personnes sont engagées dans l'association ?
Alors, ce sont des activistes bénévoles, donc ça va, ça vient. Et puis, on n'a pas de tranche d'âge, on n'a pas de milieux sociaux professionnels particuliers. On s'engage quand on en a envie. On a plein de petites mains, il y a plein de façons de militer.
Ok, super.
Je dirais qu'on est peut-être une petite cinquantaine.
Quels mouvements font l'association pour défendre cette cause ?
Alors, il y a plein d'actions possibles, notamment des ciné-débats, des manifestations, des échanges publics, des écrits. Je pourrais en citer plein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout que plus on a de bénévoles, plus on a de têtes pensantes, et plus ça évolue, et plus ça prend forme.
Qu'est-ce que vous aimeriez générer de la part des gens ? Enfin, genre leur réaction ?
Déjà, générer une réaction, je pense que c'est bien. Déjà, je pense qu'on y réfléchisse, c'est déjà une très bonne chose. Ensuite, ben, écoutez, je pense que c'est quand même un chemin qui est très individuel dans la réflexion et ensuite dans les actions qui est censé quand même être une réaction très systémique. C'est la société qui doit changer. Donc quand bien même on se déconstruit chacun notre tour, c'est quand même aussi à la société d'évoluer tous ensemble. Et donc pour ça, bah évidemment, la jeunesse, vous êtes quand même le meilleur miroir de ça.
Comment les plus jeunes peuvent participer au mouvement Nous Toutes ?
Alors, nous toutes, on a même des mineurs qui sont accompagnés de leurs parents qui viennent. On fait très attention aussi aux sujets qu'on aborde et comment on les aborde, parce que finalement, ça peut être sensible pour tout le monde, pour des majeurs ou des mineurs. Okay. Dès l'instant où on parle de violence, ça peut être délicat. Néanmoins, tout le monde peut s'engager. Comme je disais, on est plein de petites mains. Donc, il y a plein de façons de militer et on a tous notre place.
Ok. C'est quoi le patriarcat ?
Alors, le patriarcat, sans partir en philosophie ou en études de sociologie, grosso modo, ce serait en fait le mot qu'on a utilisé pour parler de l'oppression qui est mise en place par les hommes, donc évidemment pas consciemment et pas à échelle individuelle, mais qui est fait en fait par notre société, tout simplement, depuis des siècles, qui est mis en place et qui oppresse du coup les femmes et les genres minoritaires.
Sur qui veulent-elles faire pression ?
Les féministes ?
Oui.
Je dirais la société, le gouvernement, la loi, la justice sociale, et puis les financements publics, c'est important pour que tout le monde aille bien.
Pour vous, c'est quoi le féministe ?
Alors le féminisme, bon, il y aurait plein de définitions, et puis il y a même plusieurs courants dans le féminisme, on se reconnaîtrait dans plusieurs. Nous toutes, en tout cas, on représente le féminisme dit intersectionnel, c'est-à-dire qui reconnaît tous les systèmes d'oppression, et on les pense comme un croisement, c'est-à-dire qu'on peut être victime de plusieurs oppressions, de racisme, de misogynie, etc. Mmh. Et on peut aussi en véhiculer, même quand on est victime, ça faut bien en prendre conscience. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de pointer du doigt les méchants de l'histoire, ça faut bien le comprendre. On est juste là pour essayer qu'il y ait une société qui est saine pour tout le monde et d'avoir le moins de violence possible pour tout le monde.
Est-ce que nous sommes féminisme si nous le sommes mentalement mais qu'on n'agit pas ?
Ben pourquoi pas ? Je pense que dès l'instant où on s'identifie, après, on n'a pas tous le pouvoir, on n'a pas tous l'opportunité de militer d'une manière ou d'une autre. Et je pense que déjà, de ne pas se faire du mal à soi et aux autres, c'est déjà une bonne base pour le féminisme, ouais.
Comment on peut stopper la chaîne infernale avant les viols ?
Alors, le continuum des violences, on appelle ça en termes sociologiques, et c'est très complexe. Et je pense que la base, en fait, elle commence vraiment quand on est tout petit, de l'éducation. Déjà d'apprendre à être bienveillant envers soi, envers les autres, d'apprendre à gérer ses émotions, de comprendre que la violence, c'est pas un biais de communication, etc. Déjà, je pense que c'est un peu la base, effectivement. Et ensuite, après, les oppressions systémiques, elles ont des croisements beaucoup plus lointains, c'est beaucoup plus complexe. Et pour ça, heureusement, on a des livres absolument sublimes aujourd'hui, qu'on peut d'ailleurs trouver dans toutes les bibliothèques d'Évreux. Et ça, accessible dès le tout petit âge.
Pourquoi les femmes sont éloignées des matières scientifiques ?
Eh bien, en fait, par des constats, on peut reconnaître que historiquement, elles ont été empêchées d'accéder aux études et au travail scientifique pendant très longtemps. Et d'ailleurs, on a un centre médical à Évreux très connu qui s'appelle Madeleine Bresse et qui est par exemple la figure de française qui a été la première à être diplômée en médecine. Mais ça date déjà de 1870. Ça paraît peut-être un petit peu vieux pour nous, mais mine de rien, on parle d'une grosse centaine d'années, ce qui n'est pas énorme. Et donc, mine de rien, ces matières scientifiques, elles ont besoin des femmes.
Comment, nous, à 13 ans, peut-on éviter que les hommes soient supérieurs ?
Alors, je pense qu'à échelle individuelle, c'est très compliqué. Déjà, si on s'offusque un petit peu des réflexions qu'on peut avoir, des idées reçues, des stéréotypes, c'est déjà très bien. Déjà, si on s'en rend compte, qu'on en prend conscience. Et puis après, plus on apprend, plus on décide d'agir, c'est ce qu'apportent aussi les collectifs. C'est de réfléchir tous ensemble, de ne pas réfléchir et agir dans son coin, de mettre des choses en place. Je pense que c'est la force du collectif, elle est là. Et dans les matières scientifiques, par exemple, on parle souvent d'androgénisme. C'est vraiment le fait de mettre en lumière les hommes. Aujourd'hui, ben, plus les femmes font de la science et se sentent légitimes à en faire, c'est déjà une très belle manière de rééquilibrer les choses.
Ben, merci à Marine de l'association Nous Toutes d'être venue.
Merci.
Merci. Merci à vous.
Bonjour à toutes et à tous.
Où que vous soyez, chez vous, dans votre voiture assis sur un cactus ou dans votre salle de bain, ce jeu est fait pour vous.
Les règles sont simples. Répondez à nos questions sur le thème des femmes du siècle des Lumières et gagnez des points qui servent à rien. Et on commence tout de suite par la question 1. Quelle femme ne fait pas partie du siècle des Lumières ? Louise Dupin, Marie Curie, Laura Bassi ou Sophie Germain ?
Et c'est Marie Curie, car elle ne fait pas partie des siècles des Lumières.
On continue avec la question 2 sur 2 points. Qui est l'intruse parmi les femmes suivantes ? Jeanne Barré, Marie-Anne Lavoisier, Émilie Duchâtelet ou Sophie Germain ?
C'est Jeanne Barré, car c'est la seule femme exploratrice parmi les autres qui sont des femmes scientifiques.
On continue donc avec notre question 3 sur un point. Quel était le métier des Lavoisier ? Philosophe, explorateur ou scientifique ?
Les Lavoisier sont des scientifiques.
On continue avec la question 4 sur 4 points. C'est un « Qui suis-je ? » Je suis une femme née dans le 11e arrondissement de Paris le 1er avril 1776, une ancienne mathématicienne, philosophe et physicienne. Je me suis faite connaître sous le nom de Antoine-Auguste Leblanc car les femmes n'eurent pas le droit à l'instruction. J'ai découvert les mathématiques à travers Archimède. Je réussis à m'inscrire à l'université sous mon pseudonyme. Je suis la première femme à avoir gagné un prix scientifique. Qui suis-je ? Réponse A, Louise Dupin. Réponse B, Laura Bassi. Réponse C, Sophie Germain. Réponse D, une licorne. Réponse E, une pince à linge.
C'est la réponse C, Sophie Germain.
Passons maintenant à la question 5 qui vaut 1 point. À quel siècle se déroule le siècle des Lumières ?
Au 18e siècle.
Passons à la question 6 qui vaut 2 points qui servent toujours à rien. Je suis née le 20 janvier 1758 et morte à Paris le 10 février 1836. Je suis connue grâce à mes illustrations scientifiques. Je suis donc une chimiste et illustratrice dont les mérites ont été attribués au mari, auquel d'ailleurs j'ai été mariée à 13 ans. Qui suis-je ? Une tortue ? Réponse B, Marie-Anne Lavoisier. Réponse C, Laura Bassi. Réponse D, une casserole. Réponse D, Louise Dupin.
Marie-Anne Lavoisier.
Passons à la question 7, qui vaut 4 points. Je suis une femme qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne au